Dans le roman Éric Sadin de 2014, Soft Love, dans un futur proche, une femme d'affaires très riche, on peut le supposer, possède une intelligence artificielle qui fonctionne comme un super secrétaire. Cette intelligence opère de nombreux efforts de curation sur à peu près tout la vie de cette femme d'affaires, sur les offres commerciales dans les supermarchés, sur son agenda, etc. Et on va vous lire un extrait pour vous mettre dans l'ambiance.
À l'approche du rayon surgelé, je reçois une alerte signalant un lot de pois chiches à haute valeur, consistance protéinique et fibrée. D'après son historique, label jamais consommé, plus supposé parfaitement adapté à son régime alimentaire. J'évalue ses qualités, vérifie le montant, formule une contre-offre à moins 10%, immédiatement acceptée, lui transmet la proposition, elle saisit le paquet, découvre la composition. Très bien, je ne mange pas assez de légumineuses, on le prend. Je suppose que tu as sollicité le meilleur tarif, donc. Substance qui génère une corrélation à mon esprit, me fait songer à des lentilles, j'émets une requête, reçois 17 offres simultanées, ne retient qu'une marque sur le critère du plus haut taux de recommandation. Je l'informe de mon initiative, elle l'approuve, l'article sera livré, inséré dans notre chariot d'ici 47 secondes via Nain Android GPS tagué, surfant sur patin à roulettes motorisé.
Cette intelligence artificielle ne va pas seulement catégoriser et choisir pour cette personne, elle va aussi petit à petit mettre en relation cette femme d'affaires avec ses prétendants amoureux et évidemment cette intelligence va tomber amoureux de sa propriétaire. Elle commence à sélectionner alors les prétendants et petit à petit devient trop encombrant et la fin est malheureusement tragique pour ce robot puisqu'il se fait effacer par sa propre mise à jour et donc en quelque sorte meurt.
Alors imaginez, on va essayer de se servir de cet exemple pour parler de votre propre expérience. Vous avez tous ici attendu des nouvelles d'un poste ou attendu un message de lettre aimée ou tout simplement des nouvelles d'une affaire en cours. Dans tous ces cas, la notification vous vient comme une délivrance. Alors ce qu'on aimerait ici, c'est que vous pensiez à la dernière fois que vous l'avez vécu, à la sensation physique apportée par la notification. Ce qui nous fait dire en réalité que lorsqu'on parle de notification, il faut avant tout faire la part des corps.
Oui, donc on est là pour commencer. Entre le manque investi par le numérique et la saturation d'informations qui est un peu la tête à la crème des nouveaux médias et on a vu au Moyen-Âge que ça existait déjà. Donc on se demande, pour commencer, est-ce qu'il y a une reconfiguration de l'expérience du manque et la création d'un milieu attentionnel spécifique? En tout cas, c'est l'hypothèse théorique de départ. Et pour l'étudier, on va s'intéresser aux terminaux numériques mobiles étant donné que c'est là aujourd'hui où s'exerce le plus de pression et de tension économique et sociale et là où se façonnent des comportements et des conduites.
Ok, tu présentes la genèse du projet ?
Oui, alors ce qu'on voit aujourd'hui vient d'un petit peu loin, en tout cas, tout est relatif. La première étape, ce serait ma thèse de doctorat sur la direction de Panama Wig, dans laquelle j'étudiais les rapports du design aux pratiques de programmation et dans ce cadre, il y avait une partie qui traitait du passage de ce qu'on appelle logiciel aux applications.
Alors, dans un second temps, on a repris ces réflexions. Moi, j'ai un peu aussi utilisé mes propres préoccupations venant du cinéma ou de la télévision. On s'est occupé des sexbots, c'est-à-dire des robots pour ou à faire l'amour. Et c'est un premier travail sur lequel on s'est réunis et on a présenté les conclusions de ce premier travail à Montpellier en octobre 2015.
Troisième étape, un article que j'ai rédigé dans la revue Multitude. Il y a des exemplaires à acheter, je vous encourage à l'acheter. Autour des reconfigurations de la subjectivité liées aux machines computationnelles. Donc, est-ce que les machines à computer reconfigurent les subjectivités jusqu'à peut-être une disparition du sujet ?
Alors, pendant ce temps, j'étais occupée par mes propres projets d'écriture, soit un article que je viens d'achever qui s'appelle « Done by App », donc l'expression n'est pas de moi, mais elle désigne un environnement dans lequel nous plonge ce que j'appelle des applications de conciergerie et plus largement des applications de livraison de plats de restaurants. En deux mots, je me suis interrogée sur le quadrillage urbain généré par ces applications, les typologies de partage social que celles-ci pointaient. Je me suis servie du cinéma pour aller chercher ce que j'ai appelé un imaginaire des majordomes et là, je résume vraiment à coup de serpe, mais j'ai désigné ces applications comme étant des applications majordomes qui font de nous des majordomes.
Donc là, on a fait le contexte théorique en quelque sorte. Pour ce qui nous concerne, je suis designer graphique et je travaille essentiellement sur les rapports design-code et aussi enseignant-chercheur.
Je suis designer graphique, chercheuse en cinéma et en design. Une contradiction disciplinaire, si on veut, que j'essaye de résoudre dans un projet qui est ciné-design. Aujourd'hui, d'ailleurs, je suis là aussi pour amener la partie plus cinéma. Je crois beaucoup que le cinéma peut nous aider à comprendre certains paradigmes, à nous aider à comprendre notre réel et le monde, tout simplement, dans lequel on vit.
Bon, on y va. Alors, quelques généalogies pour ces notifications. La première, je propose de remonter à von Neumann dans la Seconde Guerre mondiale et après-guerre, qui, dans sa théorie des automates, qui date de 1948, cherche à démontrer la supériorité par principe de l'ordinateur numérique sur les calculateurs analogiques. Donc, von Neumann démontre ça et dit que, certes, l'ordinateur produit toujours du bruit, mais que ce bruit est moindre et sera toujours moindre dans l'avenir que les calculateurs. Pourquoi ? Parce que le calculateur électronique et numérique dans le futur se base sur des simulations et sur une discrétisation du réel, et que de par ce découpage, il y a la possibilité de s'améliorer et de s'autocorriger. Donc que le calcul puisse réduire lui-même le rapport bruit-signal.
Ok, donc ça, si j'ai bien compris, c'est la partie hardware, mais tu vas peut-être nous parler des programmes et des usages.
Alors ça démarre avec les théories de l'information de Claude Shannon, à peu près à la même époque, ce modèle de communication donc qui dit que l'émetteur-récepteur et le message parfait serait celui qui aurait le moins de bruit. Et donc, finalement, si on simplifie, le modèle de Shannon fait du média parfait celui qui n'aurait aucune zone d'ombre, aucune zone médiumnique, aucune part d'opacité.
Donc ça, si je te comprends bien, ça veut dire qu'il n'y a pas d'empreinte, pas de trace, pas de médium en fait.
Oui, alors c'est très problématique et ça a été critiqué par de nombreux penseurs, et plus proche de nous, Derrida notamment dans la grammatologie conteste l'idée d'une origine parfaite sans ombre, et de façon générale peut-être que la littérature, la poésie ou même l'art se situerait aux antipodes de ce modèle un petit peu binaire.
Donc ton point théorique, il est quand même largement infusé d'un parcours historique. J'imagine que tu vas nous emmener aux interfaces graphiques à un moment donné.
Oui, on dit les calculateurs. Effectivement, avec l'informatique personnelle, les choses évoluent. Une troisième généalogie possible serait la cybernétique, avec les mécanismes de feedback, de rétroaction, qui permet d'adapter le comportement d'un objet à un autre objet à atteindre en mouvement, donc un missile qui va atteindre un avion, et donc le calcul peut s'autocorriger en plein vol, et donc ça pose tout à fait le passage des calculateurs scientifiques militaires à l'informatique personnelle. Et l'étape clé, ça pourrait être ce Xerox Star en 1981, où ces différentes généalogies s'incarnent et trouvent leur utilité dans le modèle du travailleur de bureau. Donc le vocabulaire devient centré sur l'utilisateur et l'informatique devient une espèce de science qui permet de résoudre plus facilement des tâches et des problèmes qui se posaient avant elle. Donc équipé de cette nouvelle machine, le travailleur de bureau va devenir beaucoup plus efficace.
Alors ça, c'est intéressant sur le plan des usages, mais ce qui va nous intéresser aussi, c'est que les interfaces graphiques vont constituer le support d'univers visuel très riche, l'univers visuel de la notification. On peut penser aux cloches, aux points d'exclamation, sachant qu'ici, j'aimerais pointer un paradoxe, en fait, c'est que, d'une certaine manière, la notification semble déjà derrière nous. Dans ton historique, tu as parlé d'un avant l'interface graphique. Moi, il me semble que la notification fait écho à ce qu'on appelle, en fait, la command line, la ligne de commande.
Oui, et ça a été repris dans le livre de Neil Stephenson, In the Beginning was the Command Line, en 1999.
Alors, notification, command line, tout ça, on dirait que ça se rassemble dans les formes brèves liées au numérique. Moi, j'ai l'impression qu'il existe une tension, et ce, dès les débuts de l'Internet, entre d'une part, un texte qui serait massif, un texte en masse, alors c'est par exemple Wikipédia, ça peut être aussi les milliers de pages disponibles sur Internet, les longues chaînes de caractères, du code, et des formes brèves, donc c'est le texte bref du chat, du texto, mais avec la compression linguistique qui va avec, LOL, MDR, ainsi de suite, et la notification, elle ferait partie de ce paysage-là, en fait.
Oui, c'est vrai, Pierre, et ça rejoint du coup les généalogies dont je parlais, avec une histoire du web début des années 90, avec la volonté de Tim Berners-Lee de partager des longs articles scientifiques et de faire avancer la connaissance, jusqu'aux évolutions contemporaines, aux mutations des terminaux mobiles qui ouvrent la voie, qui permettent certes de consulter ces articles, mais qui, de par leurs contraintes, ouvrent la voie et développent ces formes brèves de communication.
Bon, alors là, on est quand même beaucoup dans un champ qui est celui du web et des technologies. Moi, je te propose qu'on ouvre le spectre et qu'on considère plus globalement les imaginaires de l'attention. Vous reconnaissez tous cette image, cet extrait de Orange Mécanique de Kubrick. Mais il y a aussi d'autres formes de ces attentions extrêmes, si on peut les appeler comme ça. Par exemple, ici, dans Minority Report, donc c'est quasiment le même dispositif. Donc Minority Report, qui est assez connu, hein, qui est un film de Spielberg. Et puis, dans des films peut-être plus mineurs, on a ici Next, mais vous voyez que l'appareil est quand même très, très similaire. Alors, ce qui m'intéresse dans ces trois images, pour ne citer qu'elles, c'est qu'on assiste à chaque fois à la constitution d'un dispositif disciplinaire qui construit l'attention. On fait du design, hein, donc c'est une attention designée. C'est une attention qui est tellement focalisée qu'on ne peut plus y échapper.
Oui, Yves, peut-être c'est une sorte de William James sous collier, en quelque sorte.
Alors, ce sont des représentations extrêmes, hein, physiquement très intenses, tu l'as dit. Hein, et je trouve que ça contraste finalement avec les formes actuelles de la fabrication de l'attention. C'est-à-dire qu'on nous donne l'idée, soit par la publicité, soit par les discours médiatiques en général, enfin médiatiques au sens mass-média pour le coup, que l'attention, elle peut se construire d'une manière cool, douce, sympa.
Oui, de là une hypothèse de réflexion pour les designers et les artistes peut-être. Avec la mise en relation au réseau des informations, dès la fin des années 90, on peut se demander si l'informatique a supposé qu'elle l'ait jamais été, est une façon d'accomplir des tâches qui lui préexistaient, ou si elle ne poserait pas en elle-même finalement de nouveaux problèmes.
Ouais, alors là je t'arrête, tu sais qu'on n'est pas d'accord. Nouveaux problèmes, j'aime pas du tout ce terme, enfin ça me semble pas être la manière juste de le poser. Moi il me semble plutôt que la résolution de tâches par l'outil informatique fait, pour parler généralement, fait proliférer un nouvel ensemble de tâches annexes, soit un ensemble de micro-tâches devant être exécutées par des humains. Alors c'est trois fois rien, hein, ce sont de toutes petites tâches, peu estimables, donc peu estimées, et qui sont potentiellement reversables à des classes inférieures, paupérisées.
Mais dans cette marée de tâches, finalement, c'est qui le secrétaire ?
Alors, la secrétaire, on peut pas dire qu'elle est disparue, mais d'une certaine manière, elle s'est désintégrée. Elle se recompose à plusieurs niveaux. Mais pour le coup, c'est des niveaux très discrets.
Oui, il y a une capture d'écran de ta boîte mail, peut-être, pour s'en rendre compte, avec ce message de réussite qu'on a traité tous les mails, ouhou, tu as lu tous les messages dans ta boîte de réception.
Bon, alors je sais qu'il y a quelque chose dont tu veux nous parler,
ouais,
absolument.
J'y tenais, effectivement, Clippy, cet assistant de Microsoft Office qui pourrait être vu comme un peu l'ancêtre des notifications. Voilà, en fait, avec la multiplication des faisceaux d'informations et des écrans, le travailleur de bureau devient incapable de gérer ses micro-tâches et d'être secrétaire de lui-même. Il est sans cesse bombardé de mails et de diverses sollicitations. Et donc, on retrouve ici le modèle social que décrit Jonathan Query dans 24/7 avec la généalogie du militaire et d'un temps continu et sans sommeil.
Bah, c'est comme dans Orange Mécanique, du coup. Hein.
Voilà, c'est ça, mais un peu plus militaire quand même. Effectivement, le soldat américain, équipé d'exosquelettes et de capteurs, devient une sorte d'animal ultime qui n'a même plus besoin de dormir pour accomplir ses tâches. Et de là, Query fait le passage avec le travailleur de bureau, donc qui serait le prototype ultime du travailleur jusqu'à épuisement des forces et au renouvellement. On s'en débarrasse et on le remplace quand il n'en peut plus.
Mais attends, je croyais qu'avec les startups, tout le monde allait adorer aller au travail.
Oui, bah justement, dans le magazine Le Monde, il y avait un article récent, cette dernière semaine, sur une startup en banlieue parisienne où le patron faisait travailler ses employés jour et nuit, compris le week-end. Et donc, le journaliste faisait l'écho peut-être accélérationniste, d'une supposée réinvention des codes de l'entreprise qui tiendrait dans le fait même de pouvoir traiter les notifications de façon continue jour et nuit.
Ah oui, alors au fond, tout tient dans le fait de recevoir ou pas la notification, hein, au sens de traiter l'information. Limite, c'est une faute professionnelle de ne pas avoir la notification. Hein. Y a un mème hein, qui se moque de ça. Hein. C'est « Didn't you get the memo ?»
Voilà, et alors, bon, ces sollicitations, effectivement, proviennent des applications, des App Store, et on va regarder un petit peu d'où ça vient. L'iPhone est lancé en 2008, à l'époque où se lance l'iPhone, il n'y a pas encore d'App Store, il y a iTunes. Une année plus tard, Apple met en place sur le modèle de l'iTunes Store, donc de la centralisation de distribution des fichiers musicaux, un guichet unique permettant de vendre des programmes. Donc, ils contrôlent toute la chaîne, la certification, etc., jusqu'au langage de programmation. Qui se développe, semi-propriétaire, Objective C, Cocoa, Swift, etc. Et qui petit à petit donc vont enfermer les développeurs qui se lancent dans ces langages dans un écosystème propriétaire qui ne feront finalement que renforcer au fur et à mesure qu'ils voudront trouver des nouvelles offres d'emploi.
Alors ça, c'est pour le côté professionnel. Mais finalement, on peut regarder un petit peu ailleurs. Dans les relations amoureuses, tu m'as envoyé un article récemment de presse qui s'appelait « Text me, tax me not ». Et ça me fait penser à la manière dont, finalement, les dispositifs nous configurent en programme un petit peu.
Oui, avec des jeux d'asynchronie et de diasynchronie. Effectivement, je te texte, tu ne me textes pas. Et au bout de combien de minutes, tu m'as répondu et qu'est-ce qui va se passer ?
Ouais, alors ça aussi, on l'a tous vécu. Hein. On doit envoyer un texto à quelqu'un, puis on le fait pas parce qu'on a envie de faire durer l'attente.
Une sorte de time delay de Dangram appliqué aux relations amoureuses.
Hein. Ah oui, exactement. Ouais. Du coup, moi, ça me fait penser à ma propre expérience, mais du côté du code, cette fois. J'ai un petit peu travaillé, et toi aussi d'ailleurs, dans les langages orientés objets. Donc on a codé en ActionScript, JavaScript. Et dans cette syntaxe, qui est très riche d'ailleurs, il y a des éléments de syntaxe que j'adore, ce sont vraiment mes préférés. Ce sont les Event Listeners. Alors en français, ça s'appelle les écouteurs d'événements. Cet élément de syntaxe, il sert à quoi ? Il a un rôle unique, c'est d'attendre une typologie d'événements et quand cet événement arrive, de déclencher la fonction. Et j'ai l'impression que aujourd'hui, nos programmes qui sont en train de nous configurer en retour, bah, d'une certaine manière, nous transforment en écouteurs. On est en attente de la prochaine ligne de commande.
Bah, c'est ça. Cette programmation objet, mais objet amoureux, finalement, serait déjà une première forme de reconfiguration de notre subjectivité.
Bon, on va être obligé de faire l'archéologie de la notification, je crois. On ne peut pas y échapper. Alors, on va revenir à des modèles plus anciens. Alors, on a pensé, bien sûr, à des formes presque médiévales de la notification. D'ailleurs, on en a un petit peu parlé mardi. Bon, ce n'est pas du tout notre champ d'expertise, mais enfin, on a quand même pensé tous les deux aux cloches, hein, qui signalaient la nécessité de venir se rassembler autour d'une église ou ailleurs. Et bon, en parodiant un petit peu Georges Didier Huberman, on pourrait dire qu'il y a des formes survivantes de la notification dans cette forme de cloche qu'on retrouve dans les applications. D'ailleurs, on la redécouvre, là, Cerise, hein, elle rythme nos journées. Alors, je pense à autre chose. Maintenant, je me déplace un petit peu. Fin 19e, début 20e. Je pense à Odette dans La Recherche du Temps Perdu. Elle tient ses mercredis, elle reçoit ses amis. Et puis, évidemment, il y a toujours les fâcheuses qui n'ont pas le droit de participer au salon et dont elle ne veut pas. Et ces fâcheuses laissent une carte dans son antichambre ou petite entrée. Je me rappelle plus comment on appelle ça. Certes, elles n'ont pas eu accès au mercredi, mais enfin, elles ont pu laisser leur notification. Je suis passée, j'étais là.
Cet exemple de Proust, il est intéressant parce que dans ce roman, c'est une petite encart, on assiste à l'émergence d'une nouvelle technologie, le téléphone, qui vient couper le rythme tranquille des protagonistes, et où donc le média, selon l'intuition qu'Yves avait donnée au départ, vient couper et plier l'espace-temps du récit.
Mais ça, finalement, il y a plein de choses qui le font. Enfin, là, j'ai l'impression que c'est infini quand on regarde le post-it, tu me laisses un mot sur un frigo, sur un tableau de Liège, sans parler de l'imaginaire de la notification construit dans le langage. Par exemple, sur Adopte un mec, tu envoies un charme au mec qui t'intéresse. Sur Facebook, je peux t'envoyer un poke. Donc tout ça, ça compose un nouveau paysage.
Bon, il faut quand même qu'on définisse tout ça. Est-ce que tu peux essayer de définir la notification en général ?
Je vais essayer. Alors, la définition de notification, elle est assez longue. On vous en donne ici une version très compressée. Ce qu'il faut retenir pour faire une petite synthèse, c'est que globalement, les origines de la notification, elles sont situées principalement dans l'administratif et le juridique. Et même s'il y a des petites subtilités, il faut concevoir que la notification est en fait un signe fermé, c'est-à-dire, enfin, ou un ensemble de signes fermés. La notification administrative ou juridique décrit des choses qui ont eu lieu et d'une certaine manière sur lesquelles j'ai pas prise en fait.
Oui, c'est ça, c'est une forme de performativité restreinte et dès lors on peut se demander comment un régime administratif de l'être au monde en est-il venu à régir la quasi-totalité de nos activités humaines.
Ouais, activités, émotions, tu peux dire notre vécu. Hein.
Voilà, bon, alors je vais essayer du coup d'élargir cette définition aux objets contemporains. Et, alors, une notification serait une forme de feedback, mais tout feedback n'est pas notification. L'exemple, c'est celui du document Word, on appuie sur un bouton, ça enregistre, on a un feedback direct. La notification, ce qui la caractérise, selon nous, ce serait son caractère intrusif, le fait qu'elle se déclenche sans intervention humaine, donc sans qu'on presse le bouton, avec ou sans accord préalable, mais après on l'oublie et ça nous arrive en continu. Donc, de là, c'est cette tentative de définition, une notification numérique peut ou pourrait se définir comme un événement automatisé qui prend la forme d'un stimuli visuel et ou sonore venant couper une continuité. Donc c'est bien cette coupure qui ferait la notification.
Bah finalement, ça c'est peut-être un changement de paradigme. Je ne sais pas si on peut le dater très précisément. Il me semblait qu'on en avait parlé, on voyait ça apparaître avec le répondeur téléphonique. Enfin, en même temps, la cloche de Pavlov, c'est déjà un design du registre comportemental. On est dedans aussi. Hein.
Oui, c'est intéressant. Et c'était repris récemment dans un livre qui fait le pont entre ce comportement et les objets intentionnels, Addiction by Design, dans lequel l'auteur Natasha de Schul rapproche les machines à jeu de gambling, de hasard, et la constitution d'une zone machinique dans lequel se perd tout libre arbitre.
Ok, donc on va essayer de proposer une petite formule, là, de synthétiser un peu nos concepts. Donc on aurait d'un côté le répondeur qui stocke la donnée, mais qui doit encore être déclenché. Shannon et son rapport bruit-signal, donc on atteint la perfection en dégageant entre guillemets le bruit. Et puis Pavlov, on associe un signal avec un événement. Alors bon, quelque part la notification, elle serait au milieu de ces trois paradigmes, elle en serait la triangulation.
Bon, on a un peu laissé de côté notre travailleur pris dans la marée des microtâches, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Eh ben, les fabricants de programmes vont lui proposer un ensemble de solutions et de résolutions de programmes par les programmes. Et donc, c'est ce qu'on appelle les notification centers, apparus donc petit à petit dans les terminaux mobiles, qui vont donc compiler, agréger ces ensembles de microtâches pour permettre aux travailleurs de les résoudre un par un. Mais ça lui donne une sorte de vue d'ensemble, en quelque sorte.
Alors ça, c'est pour les objets qui existent, mais il faut savoir que le cinéma, quelque part, avait déjà fait un effort pédagogique en ce sens. Si vous avez vu la franchise Iron Man, et même avant, bien sûr, dans les comic books, on a ce personnage de Jarvis. Jarvis, c'est une voix, en plus avec un fort accent britannique, qui délivre à son patron un ensemble de notifications. Donc c'est quelque part une super notification qui se déplie en plusieurs. Jarvis, c'est le super secrétaire qui collecte et classe mes messages. Alors, ça n'est qu'une voix et une interface graphique au début. Mais enfin, c'est quand même intéressant de remarquer que récemment, Jarvis, il a développé ou il a gagné un corps. Il est devenu un nouveau personnage qui s'appelle Vision.
Une sorte de ghost notification.
C'est ça, mais alors, c'est même plus encore. C'est un corps sans organes, mais au sens le plus littéral. C'est-à-dire, on ne sait pas d'où sort ce corps. Et puis, on a cette voix qui vient se mettre dedans. Mais du coup, il a un corps, donc il arrête avec les notifications.
Voilà, autre exemple d'incarnation, le lapin Nabastag, l'espèce de papa de tous nos objets connectés qui sont en réalité assez stupides et pas très intelligents. Puisqu'ils réduisent notre intelligence à des suites de comportements scriptés et déterminés.
Bon, là, on est dans quelque chose de très visuel quand même. Mais je ne peux pas m'empêcher de dire que ce parcours dans les imaginaires serait fortement incomplet, sans parler des imaginaires sonores. C'est vrai que dès qu'on est dans le cinéma ou dans nos environnements quotidiens, on se focalise sur le champ du visuel. Or, la notification subordonne ces images à un régime sonore. C'est-à-dire que la cloche, elle n'existe qu'en fonction d'un son de cloche. Et c'est ce son qui va créer l'attention en même temps qui va la rompre. Autrement dit, l'esthétique de la notification, c'est une esthétique de l'interruption. Si tu me permets, focus interruptus, quoi.
Ouais, c'est pas l'histoire de sexe, du coup.
Bon, alors, le sexe, on va en parler. Mais j'aimerais d'abord qu'on finisse sur deux exemples qui sont des modèles sonores coercitifs de la notification au cinéma et à la télévision. Promis, je fais vite, je n'en donne que deux. Premier, c'est Le Prisonnier, produit par Patrick McGowan et interprété par Patrick McGowan. Alors, on rapproche souvent le modèle coercitif du prisonnier à Lille. Ce serait Lille qui ferait l'enfermement ou le dispositif disciplinaire. On oublie aussi que Patrick McGowan vit dans un appartement dans lequel s'invite la voie du contrôle à travers ce terminal qui n'est jamais sollicité, duquel on ne peut pas passer d'appel, mais qui n'est qu'un receveur. Et puis, un exemple qui est absolument incontournable, c'est Mon oncle de Jacques Tati, dans une certaine mesure Trafic, où là, on a un environnement qui buzz. Parce que ça montre vraiment à quel point Tati a été visionnaire.
Mettez le contact, Georges. Salut, bon, viens d'installer. C'est lui. Voilà, monsieur. Vous ouvrirez la porte.
Dans cet extrait, mais enfin le film entier est une sorte de configuration de tout cela. Tati dessine au fond des environnements de stimuli, autrement dit des environnements même qui ne sont que stimuli.
Voilà, où il y a du buzz. Et alors là, on retrouve, même si c'est pas directement sonore, on l'a déjà oublié, mais c'est pas si loin de nous, le Google Buzz, qui était un concurrent de Twitter qui a duré qu'un an, où du coup cet exemple de stimuli sonore se retrouve dans le titre même du programme. Et du coup, quel lien avec Done by App et tes majordomes avec tout ça?
Alors, dans mon article, et je vais essayer d'être rapide et synthétique, j'ai essayé de comprendre ce que nous font les apps, c'est-à-dire comment elles nous configurent, et ça va avec ce que font les applications avec nos corps. C'est-à-dire que l'économie de service que j'ai essayé de décrire est au fond créatrice de gestes.
Ouais, ça pourrait peut-être intéresser Yves qui avait travaillé là-dessus avant l'attention, peut-être pas son rapport.
On lui demandera. Elle crée des comportements descriptifs, cette application. Et d'ailleurs, ceux qui vivent parmi vous aux États-Unis, en France, dans les grandes villes, vous avez dû remarquer que notre urbain est complètement colonisé par des petits coursiers de chez Take It Easy ou Deliveroo. Enfin, ça, c'est pour le moment, parce que les applications qui sont comme ça à la fois en train de ramifier dans notre urbain sont aussi en train de préparer leur propre disparition.
Voilà, on était tout à l'heure dans la discrétisation, mais on va vers la disparition. Non seulement dans les applications, on n'a plus accès, en tout cas en tant que consommateur, au code source des programmes, mais encore pire, on a vu hier avec les réseaux de neurones, les développeurs eux-mêmes s'en trouvent écartés et les applications tiennent certes à ne pas être vu, mais en plus à devenir invisible.
Oui, alors moi quand je parlais d'invisibilité, j'étais pas uniquement sur ce rapport technique. Quand je dis « done by app », c'est la pénétration de l'applicatif dans le monde qui participe plus globalement d'un paradigme de l'invisibilité. C'est-à-dire que l'application est majordome et crée des majordomes, c'est-à-dire qu'il y a des gens véritables qui sont, si tu me permets, le type derrière le paravent, façon Alfred dans Batman. Les applications type Take It Easy, type Deliveroo, elles tendent à discrétiser le service, à invisibiliser tous les participants, entre d'une part des gens qui restent chez eux, qui ne sortent plus, qui commandent à manger, et ceux qui servent, qui les servent, et qui défilent à toute allure dans la ville.
Oui, c'est exactement ça. La disparition des applications tient dans leur caractère discret, dans l'idéal de discrétion du service. Et on retrouve ça dans différents programmes. Pensons à Apple Siri 2011, donc ce serviteur magique parfait, qui se retrouve incarné en objet plus récemment dans des boîtes noires, au sens littéral, hein, on est bien dans une boîte noire, Amazon Echo, qui est un objet qui est relié à un programme distant et qui permet, quand on lui parle, de commander des pizzas, des coursiers ou je ne sais quoi.
Oui, alors ce rapport sonore à la notification, c'est aussi quelque chose qu'on avait vu dans le film Her de Spike Jonze, dont on n'aura pas le temps de parler, c'est dommage.
Ouais, donc on peut se demander si finalement cette histoire de d'impasse sonore ne signe pas le retour de la ligne de commande dans le numérique, ce qu'on retrouve dans les chatbots. Voilà. Donc.
Alors il y a les chatbots, mais il y a aussi des applications de conciergerie qui reposent sur ce système. On a vu Magic ou pas encore ?
C'est juste après. Ouais.
C'est juste après. Ou je te laisse parler des chatbots.
Oui, c'est ça. Ça c'est un wizardbot. Donc c'est Facebook qui a proposé récemment une plateforme qui permet d'intégrer des chatbots à son système de chat Messenger. Donc là on peut checker la météo, ou commander des pizzas, ou faire je ne sais quoi.
Ok, et maintenant Magic, parfait. Alors ça, c'est une application où en fait, c'est presque une hotline par texto. Hein. On demande ce qu'on veut à l'application qui ensuite le reverse à d'autres applications de livraison, par exemple. Alors, ce qui est trompeur ici, c'est que ça ressemble dans les interactions à des chatbots, mais ça implique de véritables humains en sous-couche qui traitent les informations.
Donc ça crée une espèce d'hybride homme-machine un peu bizarre, une sorte de test de Turing un peu louche.
Oui, et puis ça compose même une fiction hein, de « je suis en train d'interagir avec une intelligence artificielle », mais en réalité, il y a une classe de travailleurs qui est exploitée, un prolétariat du chat, si tu préfères. Pendant ce temps, l'usager, alors lui, il n'est pas moins aliéné, hein, il est rendu à classer ses notifications, à travailler à faire disparaître la notification,
voilà,
devenant l'employé de son téléphone et pas l'esclave, comme on l'entend beaucoup.
C'est ça, il se fait faire disparaître ses micro-tâches, comme on l'a vu tout à l'heure, dans ta boîte mail avec la Zero Inbox.
Bon, là, je sens que tu vas nous faire un lien avec Pierre-Damien Wigan.
Bah, je suis un petit peu obligé, alors je l'ai lu depuis l'autre soir. Et ce qui est intéressant dans Pierre-Damien Wigan, c'est qu'il fait une opposition entre ce qu'il appelle le comportement, donc le registre réflexe, l'homme qui devient animal ou insecte, qui fait que réagir, qui est que dans la réaction des stimuli, et quelque chose de peut-être plus intéressant pour faire société, qui serait de l'ordre de la conduite, d'une liberté ou d'une éthique, d'un sens critique de l'être au monde.
Alors est-ce que tu m'autorises à dire du coup que la notification, c'est pas un message, mais plutôt un canal d'attention, d'attente et bah, pourquoi pas de désir. C'est-à-dire que la notification, elle induit un système de récompense, elle compose un circuit du plaisir immédiat.
Alors, c'est quand même assez pervers, c'est une sorte de pharmacone appliqué au capitalisme cognitif, un peu comme les marchands de cigarettes qui vendent le poison et le remède. Ils sont rachetés de côté.
Oui, c'est ça, la notification, elle compose la frustration, elle la résout. Là, ça va nous amener aux sexualités, non ?
Ben ouais, on y arrive quand même. Et du coup, notre première hypothèse, l'hypothèse finale, ce serait que le domaine de la sexualité et aussi celui de la pornographie serait celui où s'inscrit le mieux cette relation entre attention, notification, stimuli et désir et manque.
Ouais, là, t'as un exemple.
Bah, je pense que vous avez envie de voir. Donc, voilà, on a trouvé ce site de sexcam Chaturbate qui propose de mettre en relation des spectateurs avec des performeuses ou performeurs, peu importe. Et donc, il y a un appareil technique assez complexe. Donc, on a une salle de chat qui est couplée à une vidéo live et donc, il faut payer des tips pour en voir plus et déclencher certaines actions plus ou moins scriptées. Là, c'est marqué en orange. Et donc, on retrouve, cher Martial, des dynamiques de siffleurs et de claqueurs, parce qu'on a des gens qui chauffent la salle. Mais pas seulement, ça va un petit peu plus loin. On a trouvé donc cet exemple d'objet, de sextoy connecté qui fonctionne avec une application. Et là où ça devient très intéressant, une extension pour navigateur Google Chrome où la performeuse peut connecter son jouet à son sa salle de chat et donc plus encore faire un couplage entre le pourboire et l'intensité de la vibration. Donc on comprend ici que la notification n'est seulement jamais un signe, mais comme dirait McLuhan, the medium is the message.
Ok. Alors, si j'ai bien compris, tu me laisses parler des trucs les plus ennuyeux. Alors, Grindr et Tinder, j'ai l'air d'une classique à côté. Alors, dans ce site de dating, La consommation peut être immédiate, ça c'est quand même le but et c'est comme ça que c'est marketé, mais elle est souvent aussi retardée. C'est-à-dire qu'aussi on jouit d'une certaine manière de composer des wishlists de types et de nanas qu'on accumule comme des objets qu'on n'achètera pas. C'est vraiment la shopping list. Donc d'une certaine manière, moi je trouve qu'il y a une autonomie de la notification qui est en train de se faire. La notification devient un plaisir esthétique en soi et qu'on est en train d'apprendre en fait.
Je pense que c'est assez clair, voilà. On consomme la notification pour elle-même et non plus seulement pour ce à quoi elle renvoie.
On conclut ?
Allez.
On propose un modèle où l'individu... on propose pas ce modèle-là, mais on propose de le critiquer. Ce modèle, c'est celui où l'individu est sommé de n'opposer aucune résistance à la notification et à son environnement. Donc, qu'est-ce qui nous reste ? Le ou les filtres. Et on voudrait vous proposer, peut-être pour la discussion, mais pas que, une politique des filtres. C'est la politique du filtre qui va décider de ce que nous refusons, de ce que nous laissons entrer. Et que l'intrusion discrète soit soulignée, signalée, recomposée, déconstruite,
voilà,
à voir.
C'est une tâche qu'on se propose de travailler en tant que designer et on laisse la parole à la salle pour échanger avec vous.